Globalement, on ne peut plus faire crédit en Chine, puisque si vous faites la somme de l'endettement public et de l'endettement privé, c'est la dette totale, vous retrouvez au même niveau qu'en Europe ou aux États-Unis. Lorsque vous faites la dette des entreprises, la dette des ménages et la dette des administrations publiques. Donc, à partir de 2008-2009, contraint par la récession mondiale, les autorités ont fait quoi? J'ouvre en grand les vannes du crédit et en gros, j'inonde l'économie par des prêts. Bien sûr, tout ça a été très vertueux dans les premiers temps, mais ça s'appelle le modèle espagnol. C'est-à-dire que ça a permis de construire des voies ferrées, des immeubles, des aéroports, des autoroutes. Malheureusement, en fait, l'ensemble de ces projets d'investissement-là ne sont pas rentables. Et in fine, 4 à 5 ans plus tard, lorsqu'ils sont tous construits, et c'est déjà le cas, c'est le cas sur place, vous vous retrouvez dans la situation où souvent ces projets-là ne sont pas en mesure de rembourser l'argent qu'ils ont prêté pour les construire initialement. Donc on est à la fin du phénomène, à la fin de la boucle, à savoir que cette économie qui reposait essentiellement sur l'augmentation de la dette et des prêts distribués par les organismes officiels ou officieux arrive à son terme parce que tout ça ne génère plus assez de croissance. Donc derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Concrètement, il n'y aurait pas grand-chose d'autre à faire que laisser faire faillite une partie des entreprises qui ne sont plus rentables et des projets qui ne sont pas rentables en Chine pour repartir de l'avant après une récession relativement violente.
Ces chiffres concernent en tout cas l'économie officielle. Il y a aussi en Chine tout un pan de ce qu'on appelle le shadow banking, cette banque de l'ombre. Qu'est-ce que c'est exactement que cette réalité? On la connaît peu ici en Europe finalement.
Le problème de la Chine, c'est que c'est d'abord une économie administrée, où tout est administré, y compris les prix. Quand je dis les prix, c'est notamment les taux d'intérêt. Pour que vous compreniez très facilement pourquoi le shadow banking a explosé, c'est que la première des choses, c'est qu'il faut savoir que le système bancaire est réservé pour financer concrètement les entreprises publiques essentiellement et les collectivités locales. Finalement, le tissu privé que sont les entreprises et les ménages doivent se financer autrement. Deuxième chose, il faut savoir aussi que les taux d'intérêt, l'équivalent du taux du livret A chez eux, tournent autour de 2-3%. Sauf que chez eux, l'inflation, elle n'est pas de 1% comme chez nous, elle est de 5%. C'est-à-dire concrètement, si vous êtes un ménage et que vous avez mis de l'argent de côté, si vous le laissez à la banque votre argent, il vous rapporte 2 alors que l'inflation est de 5. Vous comprenez très vite qu'en fait, c'est de la spoliation. Donc, l'État orchestre la spoliation des ménages et de l'épargne des ménages. Donc, les ménages font quoi? Mais ils ne mettent pas cet argent à la banque. Ils le mettent à disposition de structures opaques, officielles ou non officielles, qui vont prêter en fait cet argent-là aux entreprises qui en ont besoin. Et elles ne vont pas les prêter à 2-3%, elles vont les prêter à des taux qui vont être beaucoup plus élevés, ce qui fait que l'entreprise est contente parce qu'elle trouve de l'argent. Simplement, cet argent-là va lui coûter cher. Et le ménage qui, lui, a mis à disposition son épargne est content parce qu'il a cette épargne-là va être rémunérée de manière plus forte que s'il l'avait laissée à la banque. Donc vous avez en fait l'origine du shadow banking. Ça a pris des proportions absolument gigantesques qu'on voit sur le terrain sur place.
Et aujourd'hui, où en est-on exactement?
C'est un danger aujourd'hui. Que doit gérer le gouvernement? Donc vous avez d'un côté le surendettement des collectivités locales qui ont fait à peu près n'importe quoi avec l'argent disponible et mis à disposition par les banques, à savoir on a construit tout et n'importe comment en trop grande proportion. Et de l'autre côté, vous avez le système financier lié à des entreprises privées qui reposent sur du shadow banking qui, là aussi, sont en difficulté. Donc vous avez ce double phénomène et on sent bien, notamment de la part des gouvernants qui ont totalement conscience de ce qu'on évoque ensemble, qu'ils sont sur la brèche et ils cherchent des solutions aujourd'hui en parant au plus pressé dans une situation qui devient de plus en plus compliquée puisque la croissance en Chine ralentit assez fortement. Le problème principal de la Chine, c'est que eux distribuent beaucoup de crédits mais ne s'assurent pas de la crédibilité, de la fiabilité, de la rentabilité des projets qu'ils financent. C'est là où ça pose un problème. Parce que globalement, une fois que le projet a été monté, vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle des créances douteuses dans le système bancaire, c'est-à-dire que des gens à qui vous avez prêté ne sont pas en mesure de vous rembourser. Et là, vous êtes dans un risque systémique, donc ça, c'est inquiétant.